VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide en votre compagnie à la une de l'actualité en ce lundi 23 décembre 2019. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah est mort. Chef d'état-major de l'armée, il était apparu ces derniers mois comme le gardien du système au pouvoir face au mouvement de contestation populaire.
Il y a beaucoup d'émotions donc, parmi la population. Il y a aussi le fait que le général de corps d'armée est décédé 4 jours après la prestation de serment du président de la République.
Première frappe d'un drone français en opération au Mali où la force Barkhane annonce avoir neutralisé une quarantaine de djihadistes. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'a pas pu atterrir à Abidjan faute d'autorisation. Également dans l'actualité, 5 Saoudiens condamnés à mort pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, mais la justice a été bafouée d'après Reporters sans frontières. Ne ratez pas non plus vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. D'emblée cap sur l'Algérie pour ouvrir le journal. Il a dirigé le pays après la démission forcée en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Le général Ahmed Gaïd Salah, le très puissant chef d'état-major de l'armée, est décédé d'une crise cardiaque aujourd'hui, 4 jours à peine après l'investiture du nouveau chef de l'État dans un pays confronté depuis 10 mois à des manifestations d'envergure. Eki Abadou pour les détails.
Visage du haut commandement militaire, cœur de ce système au fonctionnement opaque, il est décédé ce lundi d'une crise cardiaque, 4 jours après sa dernière apparition publique lors de l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre à la faveur d'un scrutin rejeté par la rue, mais que le haut gradé aura porté à bout de bras. Né le 13 janvier 1940 dans la région de Batna, à 300 km au sud-est d'Alger, Ahmed Gaïd Salah a rejoint dès 17 ans les rangs de l'armée de la Libération nationale, qui combat alors le pouvoir colonial français. Nommé en 2004 à la tête de l'armée par le président Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Gaïd Salah avait promu en début d'année la candidature du chef de l'État, pourtant très affaibli, à un 5e mandat avant de changer de position en avril. Un temps crédité d'avoir arraché le départ de M. Bouteflika, il avait été ensuite conspué pour son refus de mettre sur pied des institutions de transition réclamées par le mouvement populaire et inédit de contestation, mais aussi pour la multiplication des incarcérations de manifestants, militants et journalistes. Ahmed Gaïd Salah était l'un des derniers représentants des combattants de la guerre d'indépendance, un pilier du régime depuis 1962.
L'armée française affirme avoir effectué pour la première fois une frappe en opération à l'aide d'un drone Reaper au Mali. Le raid a eu lieu samedi dernier dans le centre du pays où les militaires de la force Barkhane disent avoir mis hors de combat un total de 40 djihadistes. Au Nigeria, des djihadistes ont tué 6 militaires dans une embuscade tendue hier à une patrouille près de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Ce sont des membres du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, qui ont attaqué le convoi militaire à l'extérieur du village de Tongouché. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, n'a pu atterrir ce midi à Abidjan, faute d'autorisation des autorités ivoiriennes. Son vol en provenance de Paris a été dérouté sur Accra, au Ghana. Les autorités ivoiriennes auraient émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement des deniers publics, d'après l'hebdomadaire Jeune Afrique sur son site internet. Pour en savoir davantage, Bagasikoura a joint André Silver Conan, journaliste et analyste ivoirien.
Il est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, vu que les informations pour l'heure sont confuses. Alors, il semble que son avion n'a pas pu atterrir pour une raison ou pour une autre et que finalement il s'est retrouvé au Ghana. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour les faits dont on a connaissance, c'est qu'il y a eu quand même plus de 800 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés pour empêcher tout rassemblement en faveur de son retour. Et par la suite, les choses se sont précipitées.
Alors là, on dit qu'il est arrivé à Accra et qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui?
Oui, c'est ce qu'on vient d'apprendre. En tout cas, c'est le magazine Jeune Afrique qui vient de donner l'information. Cela ne serait pas du tout surprenant vu tout ce qui a été mis en œuvre depuis ce matin, sinon depuis quelques jours, pour l'empêcher de revenir dans son pays. Ça ne serait pas du tout surprenant. Ce qui serait surprenant, par contre, c'est que une personne contre qui un mandat d'arrêt est émis, eh bien, cette personne-là, on l'empêche de rentrer justement pour l'arrêter. ça n'a aucun sens. Voilà, je vais dire, si effectivement il y avait un mandat d'arrêt, ben, il suffisait de laisser rentrer Soro pour l'arrêter tranquillement.
L'activiste franco-béninois Kémi Séba est entre les mains de la gendarmerie burkinabé depuis samedi soir. D'après son avocat Prosper Farama, il a été interpellé pour avoir tenu des propos qualifiés d'incendiaires contre le chef de l'État du Burkina, Rochmar Christian Kabore, lors d'une conférence publique à l'université Joseph Kizerbou. On écoute son avocat, maître Prosper Farama.
Au début, disons que les autorités policières disaient que c'était pour sa sécurité qu'il avait été conduit à la gendarmerie. C'est seulement le lendemain, après notre intervention, qu'ils ont confirmé que la question de sécurité s'est transformée en une question de garde à vue, mais qu'il était reproché d'avoir tenu certains propos au cours d'une conférence publique qui aurait eu lieu à l'université de Ouagadougou la veille. Lors de laquelle, dans la conférence publique, il aurait tenu des propos injuriés à l'encontre du chef de l'État et d'autres propos qui seraient de nature à appeler la jeunesse à la violence, à la révolte.
Est-ce qu'on sait s'il pourra quitter le pays comme prévu?
Non, son vol était prévu déjà pour ce matin à 10h. Il a été auditionné hier. Il devrait être présenté au procureur aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, nous attendons toujours que le procureur se manifeste afin que nous puissions savoir de façon définitive. Est-ce que les charges sont retenues contre lui? Est-ce qu'il est inculpé ou non? Mais il ne peut pas quitter le pays puisqu'il est en garde à vue pour le moment.
Maître Prosper Farama, avocat de l'activiste Kémi Séba, joint à Ouagadougou par Bagassé Koura. Au Maroc, peine confirmée pour 4 journalistes, 6 mois de prison avec sursis pour publication d'informations considérées comme confidentielles. La cour d'appel de Rabat a également confirmé une amende de 10 000 dirhams pour chacun d'eux. Ils étaient poursuivis depuis le début de l'année dernière pour avoir publié des extraits de débats d'une commission d'enquête parlementaire consacrée au déficit de la caisse marocaine de retraite après une plainte du président de la deuxième chambre du Parlement. Des ONG comme Human Rights Watch, Amnesty et Freedom Now s'inquiètent des condamnations de journalistes en vertu du code pénal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5 Saoudiens ont été condamnés à mort par un tribunal de Riyad pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en octobre de l'année dernière en Turquie. 2 des principaux suspects ont toutefois été disculpés. Reporters sans frontières affirment que la justice a été bafouée. Pour Ankara, le verdict est loin de rendre justice. Compte rendu, John Linden.
Le tribunal a condamné à mort 5 hommes qui ont directement participé à l'assassinat, indique le procureur dans un communiqué. Par contre, aucun chef d'accusation n'a été retenu contre Saoud al-Qahtani, un proche conseiller du prince héritier, ajoute le procureur. L'ancien numéro 2 du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, a aussi été acquitté. Le général Assiri était soupçonné d'avoir supervisé l'assassinat du chroniqueur du Washington Post et d'avoir été conseillé par Saoud al-Qahtani, confident du prince héritier. Jamal Khashoggi, 59 ans, collaborateur du Washington Post, avait été assassiné en octobre 2018 lors d'une opération qui a plongé l'Arabie Saoudite dans l'une de ses pires crises diplomatiques. Cette affaire a terni l'image du prince héritier Mohamed Ben Salman, soupçonné d'être le commanditaire du meurtre. Critique du régime saoudien après en avoir été proche, le journaliste a été étranglé et son corps découpé par une équipe de 15 hommes venus de Riyad dans le consulat du royaume à Istanbul, selon les responsables turcs. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Ce lundi, la Turquie a critiqué les décisions de la justice saoudienne, estimant qu'elle était loin de rendre justice.
Ici aux États-Unis, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, n'était pas encore prête ce lundi à transmettre au Sénat les documents nécessaires à la tenue du procès en destitution du président Donald Trump, initialement prévu en janvier prochain. La Chambre, contrôlée par les démocrates, a approuvé mercredi dernier les deux chefs de mise en accusation du locataire de la Maison-Blanche, qui doit désormais être jugé au Sénat pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Madame Pelosi aussi veut obtenir des garanties de la Chambre haute du Parlement à majorité républicaine, notamment sur la possibilité d'entendre des témoins. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
La République démocratique du Congo et la société italienne Medea Development ont signé un accord de modernisation du circuit de distribution des produits pétroliers. Il permettra d'améliorer les infrastructures d'importation et la construction de nouveaux dépôts de stockage et d'un pipeline entre la RDC et la Zambie jusqu'au pôle minier de Lubumbashi pour 420 millions de dollars. Selon l'agence Bloomberg, l'accord vise aussi à accroître la participation du gouvernement congolais dans l'industrie pétrolière pour réduire les prix de l'essence, qui sont parmi les plus élevés du continent. Au Mali, les réserves de la mine Yomfolila de Hummingbird Resources ont augmenté de 165 000 onces par rapport à l'estimation réalisée avant le début de la production sur la mine, publie l'agence Ecofin. Cette hausse est due à la multiplication des travaux d'exploration à Yomfolila, qui comprend actuellement les gisements Komana East et West, Gonka et Sanyumale West. Elle devrait aboutir à un nouveau plan de développement quinquennal qui sera publié début 2020. Pour terminer, le ministère camerounais des Postes et Télécommunications vient d'attribuer un agrément postal à 9 entreprises qui opéraient dans l'informel en marge de la réglementation en vigueur. Parmi les bénéficiaires figurent DHL, Bolloré Transport and Logistics, Metea Texel, Essico, SMS Express Exchange et Emi Money. Ces entreprises sont les premières opératrices qui exerceront dans le secteur postal privé avec une autorisation. Leurs frais d'enregistrement a permis au Cameroun de collecter 317 milliards de francs CFA.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
On connaît le trio final en lice pour le Ballon d'Or africain.
Oui, l'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané sont les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, selon la liste dévoilée par la CAF. Salah a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016. Quatrième au classement du Ballon d'Or devant Salah, cinquième, et Mahrez, dixième. Mané a plus de chances de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis El Hadj Diouf en 2002. Pour le trophée de meilleur jeune joueur de l'année, le Nigérien de Lille, Victor Osimhen, est en concurrence avec son compatriote Samuel Chukwueze de Villarreal et le Marocain Achraf Hakimi du Borussia Dortmund. La cérémonie de récompense aura lieu le 7 janvier en Égypte.
Trois finalistes également chez les coachs.
Oui, vainqueur de la CAN avec l'Algérie, Djamel Belmadi fait face à Aliou Cissé du Sénégal, finaliste perdant, et Moine Chabani qui a gagné la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis. Pour les autres prix, Anis Badri de la Tunisie, Youssef Belaïli de l'Algérie et Tarek Hamid de l'Égypte sont les trois finalistes retenus pour le trophée de joueur interclub de l'année 2019. Chez les femmes, les trois finalistes sont Adjara Nchout du Cameroun, Aziza Oshoala du Nigeria et Tembi Gatlana de l'Afrique du Sud, Alain Djoumfa du Cameroun, Désiré Ellis de l'Afrique du Sud et Thomas Denerby du Nigeria sont en lice pour le titre de meilleur entraîneur de l'équipe féminine de l'année.
Des arrestations après le derby marocain Wydad Raja.
Plusieurs personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme hier à Casablanca, à la fin du match qui a opposé le Wydad au Raja. Après le coup de sifflet final de la rencontre remportée par le Raja 1-0, des supporters des deux grands clubs se sont affrontés à coups de jet de pierre dans certaines artères de la ville, causant deux blessés dans les rangs des forces de l'ordre et des dégâts matériels. D'après la police, plusieurs personnes ont été interpellées et seront soumises à une enquête pour leur implication présumée dans ces actes de hooliganisme.
Et Basketball Africa League, Patriots enlève le tournoi de Kigali.
À domicile, le Patriote BBC s'est adjugé le trophée de l'élite 16. Le club rwandais s'est imposé en finale devant JNBC de Madagascar 94-63. C'est la cinquième victoire consécutive en 5 matchs pour le club rwandais, amené notamment par Jean-Victor Moukama, 18 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Les deux équipes sont assurées de disputer la saison régulière de la Basketball Africa League. Depuis leur victoire en demi-finale, les Mozambicains de Ferroviaro disputeront aussi la saison régulière de la BAL l'an prochain, grâce à leur victoire 74-57 sur City Oilers, un match de classement.
Merci Yakuba. Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur la grosse actualité du jour. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Chef d'état-major de l'armée algérienne pendant 15 ans et pilier du régime depuis l'indépendance en 1962, il a joué un rôle clé dans la gestion de l'après-Bouteflika et à la tenue des élections qui ont consacré la victoire d'Abdelmajid Tebboune. Pour un décryptage, Abdourahmane Dia a adjoint le directeur de la rédaction du quotidien algérien, l'expression Saïd Bouseta.
Il y a beaucoup d'émotions donc parmi la population. Il y a d'abord des réactions humaines, c'est-à-dire quand il y a un décès, il y a toujours cette compassion qu'on a pour la personne décédée. Il y a aussi le fait que le général de corps d'armée est décédé 4 jours après la prestation de serment du président de la République. Donc quelques jours après sa fin de mission en tant que chef d'état-major, par rapport à la question donc du retour à la légalité constitutionnelle.
Beaucoup de surprises également. Est-ce qu'on le savait malade?
Officiellement, non. On le disait donc fatigué de temps en temps, fatigué. Donc il y a quelques mois, il avait l'habitude de faire quasiment trois discours par semaine à un moment. Il avait disparu une dizaine de jours, on le disait malade, fatigué, mais il est revenu au devant de la scène et jusqu'à la prestation de serment du président de la République, il semblait fatigué, certes, mais il était bien vivant. Il marchait, il a reçu sa distinction, il s'est déplacé jusqu'au président pour recevoir sa distinction. Et il était c'était un homme de 80 ans, donc il ne pouvait pas y aller en courant, mais il semblait en forme, voilà. À 80 ans, on peut avoir une crise cardiaque et décéder, comme on peut l'avoir à 25 ou 35 ans, hein. Donc je ne vois pas le rapport, voilà.
Est-ce que la disparition du général Gaïd Salah peut avoir un effet sur la suite du processus politique?
En principe, non. D'abord parce que le processus est arrivé à son terme. Il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient pour un retour rapide à la légalité constitutionnelle. Donc le processus a pris fin le 12 décembre dernier avec l'élection du président de la République. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère.
Est-ce qu'on a annoncé la nomination d'un nouveau chef des armées?
Le président de la République a nommé le commandant des forces terrestres, M. Shangriha, le général Shangriha. Il a nommé le général Shangriha, qui est commandant des forces terrestres, comme chef d'état-major par intérim.
Est-ce qu'il est bien connu du public?
Son nom est sorti dans la presse algérienne ces derniers temps. On le dit d'ailleurs très proche de Gaïd Salah et c'est quasiment une continuité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que dans la tradition de l'armée algérienne, c'est toujours le commandant des forces terrestres qui prend l'état-major.
Saïd Bouseta, directeur de la rédaction du quotidien L'Expression, était en ligne d'Alger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En marge de son déplacement en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi dernier la fin prochaine du franc CFA, une monnaie créée en 1945. Elle sera remplacée par l'écu. Outre le changement de nom, la réforme comprend la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français, ainsi que le retrait de Paris des instances de gouvernance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de l'UEMOA, où la France était présente. Pour une analyse, Eric Manirakiza s'est entretenu avec l'analyste économique et directeur exécutif adjoint de l'OCIBOA, Ibrahima Aïdara. Il est basé au Sénégal.
C'est une étape assez importante dans le processus de réforme. Elle est importante, mais de notre point de vue, c'est pas une grande révolution. C'est comme si c'est tout à fait attendu. Rappelons que le contexte aujourd'hui dans la sous-région est marqué par une protestation et une élévation des voix des sociétés civiles et de la jeunesse ouest-africaine qui demandent aux autorités de nos pays de prendre leurs responsabilités pour déterminer avec indépendance notre politique monétaire, qui n'est pas possible jusque-là avec le contexte actuel du franc CFA.
Des mesures annoncées sont quand même significatives, mais il y a aussi des défis.
Le premier défi est qu'il y a un changement de nom, mais il ne faut pas se limiter au changement cosmétique, selon lequel on a changé le nom, mais les fondamentaux et, disons, les liens intrinsèques de domination existent toujours avec la garantie de stabilité et l'arrivée à l'euro de la nouvelle monnaie annoncée. Et l'autre défi, c'est comment est-ce que ça va s'arrimer avec le processus beaucoup plus global de la CEDEAO qui est dans la réforme de la monnaie unique de la sous-région.
Effectivement, le Nigeria dit qu'il est impossible d'avoir l'écho d'ici 2020.
D'après les critères de convergence qui sont établis, beaucoup de pays, pas seulement le Nigeria, ne pourront pas respecter ces critères-là. Et donc, 2020 est un horizon de départ, mais pas d'arrivée, où tout le monde, on va s'attendre à ce que tous les pays membres soient prêts pour aller dans la monnaie unique. Mais je pense que ça doit être considéré comme un point de départ. Il est clair qu'il y a beaucoup d'autres réformes à faire dans des économies différentes comme le Nigeria et tant d'autres pour, disons, arriver à cette convergence-là et aller au projet commun.
L'annonce d'Abidjan est perçue comme une annonce isolée, non concertée par d'autres pays de la CEDEAO. Ça va, disons, compliquer
oui,
la suite.
Je pense que c'est politiquement voulu pour diluer la vertu de la réforme proprement dite de la CEDEAO et avoir toujours l'influence de la France sur le nouvel ordre économique de la sous-région qui se dessine avec la monnaie unique. Si c'est concerté au niveau de l'UEMOA, je ne suis pas sûr que ce soit concerté au niveau de la CEDEAO de façon globale et ça amène des risques de complications et d'arrimage entre les deux concepts, l'écho de l'UEMOA et l'écho de la CEDEAO dont la plupart des citoyens ouest-africains s'attendent véritablement qui doit relancer, faire progresser l'intégration régionale.
Ibrahima Aïdara, analyste économique et directeur exécutif adjoint de l'OCIWA, joint à Dakar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo pour la paix dans la région des Grands Lacs, telle est la solution que propose Adolphe Muzito, l'actuel dirigeant de la coalition de l'opposition Lamuka à Kinshasa. La proposition ne rencontre cependant pas l'assentiment de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, deux des autres leaders de la plateforme Lamuka. Eddie Sango a joint Adolphe Muzito.
Les propos que j'ai tenus, comme je l'ai dit dans ma communication, je m'engage que moi-même, c'est mon opinion, c'est ma conviction. Qui veut la paix prépare la guerre. Le Rwanda et l'Ouganda viennent faire la guerre au Congo. C'est au nom de quel principe? Je suis convaincu que le Congo, pour être fort, doit avoir un État fort. Et cet État fort n'est possible que s'il y a légitimité, s'il y a vérité des urnes, si les dirigeants sont à la tête des institutions cadres à ce qu'ils viennent du peuple et se sentent redevables vis-à-vis du peuple. C'est alors qu'ils travailleront pour le pays et pour le peuple. Tant que ce n'est pas le cas, nous aurons un État faible, nous aurons un pays dirigé par des hommes et des femmes qui n'ont pas la légitimité populaire, qui seront redevables, non pas vis-à-vis du peuple, mais de ceux auprès de qui ils vont négocier le pouvoir. Donc, il faut construire la vérité des urnes dans l'avenir, de bonnes élections légitimes. On aura la légitimité nécessaire et pour construire un État fort et une armée forte pour dissuader nos voisins qui nous font la guerre. Et nous pensons qu'il n'y a qu'en ayant une armée dissuasive, que les Rwandais peuvent se discipliner, tous nos voisins peuvent nous respecter, qu'ensemble on peut construire la région. Parce qu'il faut que le Congo, de par sa taille, impose la paix en montrant qu'il est fort, mais fort pour stabiliser la région. faire que les Africains qui sont au bout du Congo puissent bénéficier des richesses du pays en venant investir comme viennent les autres peuples. Voyez-vous, il y a des Chinois, des Indiens, des Pakistanais qui viennent exploiter les richesses du pays, créent la richesse, payent les impôts, créent des emplois, et pourquoi pas les Rwandais? Mais les Rwandais ne peuvent venir véritablement profiter des opportunités du Congo. Et nous, Congolais, des opportunités du Rwanda, que si nous sommes en paix, et cette paix serait au pays le plus fort de la région économiquement, démographiquement et géographiquement, de l'imposer.
Le Congo doit-il annexer les Rwandais?
Et quand nous disons annexer les Rwandais, cela ne signifie pas prendre les terres du Rwanda. C'est faire un, dans le cadre d'une confédération comme l'Union européenne, dans une confédération où nous avons les mêmes lois, nous exploitons les richesses ensemble, mais dans la légalité, en respectant les droits des autorités locales, en respectant les droits des populations, sans être amené à se tuer, à se violer. Si on ne peut pas le faire de manière diplomatique, le Congo prendra la responsabilité. Quand je dis annexer, ce n'est pas prendre le Rwanda et l'annexer au Congo dans le sens négatif. C'est créer une confédération africaine de grands lacs comme la CPGL a organisé ça. Donc, comme un peu l'Union européenne, si on est malin, il n'y aura plus de guerre. On peut sécuriser les intérêts des Congolais et ceux des Rwandais.
Adolphe Muzito, dirigeant de la coalition d'opposition Lamuka, était en ligne de Kinshasa, la capitale de la RD Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Le Congrès américain observe une pause après le vote de la Chambre des représentants ayant approuvé deux articles de mise en accusation du président Donald Trump. Les démocrates majoritaires à la Chambre doivent maintenant décider quand et s'il faut envoyer ces articles au Sénat sous contrôle républicain. Certains sénateurs influents ont déjà déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'être des jurés impartiaux. Retour sur les derniers développements résumés par Arash Arabasadi. Le récit est de Nathalie Barr.
La semaine dernière à Washington, Donald Trump est devenu le troisième président américain mis en accusation après un vote à la Chambre des représentants sous la présidence de la démocrate Nancy Pelosi.
Aujourd'hui, en tant que président de la Chambre, j'ouvre solennellement et tristement le débat sur la mise en accusation du président des États-Unis. Si nous n'agissons pas maintenant, nous manquerions à nos devoirs. C'est tragique, mais les actes irresponsables du président rendent sa mise en accusation nécessaire. Il ne nous a pas laissé le choix.
Les démocrates accusent M. Trump d'avoir abusé du pouvoir de la présidence dans son intérêt personnel. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, estime que ce processus de mise en accusation est politiquement motivé.
Pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine, nous avons vu une faction politique au Congrès promettre, dès la fin de l'élection présidentielle, qu'elle trouverait un moyen de l'annuler.
Mitch McConnell a rejeté la demande des démocrates de faire témoigner des collaborateurs présidentiels clés lors du procès de mise en accusation de Donald Trump, ce qui n'est pas du goût de Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
J'attends encore qu'on nous explique comment moins de preuves vaudrait mieux que plus de preuves. Quatre témoins, seulement ceux qui ont une connaissance directe des accusations portées par la Chambre, ce qui pourrait fournir de nouveaux témoignages pertinents et potentiellement éclairant.
Les sénateurs agiraient en qualité de jurés dans un procès de mise en accusation. Le républicain Ron Johnson a déclaré dimanche que les accusations portées contre le président Trump ne pesaient pas bien lourd.
Je soutiendrai le président dans le type de procès qu'il souhaite et pour le type de témoin qu'il souhaite amener. Je pense également qu'il serait tout à fait approprié que la Chambre plaide sa cause, que le président plaide la sienne, puis qu'on le décide quoi faire.
Pendant ce temps, les démocrates continuent de remettre en cause les motifs du président, comme le sénateur de l'Alabama, Doug Jones, ancien procureur. Ce dernier assure qu'il garde toutefois un esprit ouvert en ce qui concerne le jugement par le Sénat de l'affaire ukrainienne.
Si un président des États-Unis utilise son bureau et le pouvoir de la présidence contre un pays qui dépend des États-Unis d'Amérique, et s'il le fait juste pour obtenir un avantage politique pour sa propre campagne personnelle, c'est une affaire très grave.
Le Congrès est suspendu pour les vacances jusqu'à début janvier, lorsque les législateurs de la Chambre pourront décider d'envoyer leurs articles de mise en accusation au Sénat pour jugement.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Nick Ivanov était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.